Dans cette séquence, nous allons parler de grandes et de petites villes et donc préciser ce concept très englobant que les géographes emploient lorsqu'ils parlent de taille de ville. En réalité, ils pensent à tout un regroupement d'indicateurs qui désignent l'importance d'une ville par sa masse, par l'étendue qu'elle occupe, mais aussi par la diversité de ses activités, sa complexité fonctionnelle et sociale, et son rayonnement en termes d'attraction ou de capacité de diffusion, parce que toutes ces grandeurs sont toujours assez fortement corrélées entre elles. Même si, dans la pratique, on mesure la taille des villes, lorsqu'on souhaite le faire avec précision, par la surface qu'elles occupent, c'est le cas obligé pour les archéologues ou les historiens qui travaillent sur des villes médiévales englobées dans des enceintes. Mais aujourd'hui, le plus souvent, les statisticiens dénombrent la population regroupée dans les villes et les Nations Unies proposent, collectent des mesures en principe comparables pour l'ensemble des villes du monde. On dispose beaucoup plus rarement de mesures de l'importance des villes par évaluation de ce qu'elles produisent économiquement, et pourtant la Chine, par exemple, donne pour chacune de ces grandes villes des statistiques de produit intérieur brut urbain. On pourrait imaginer, et on utilise d'ailleurs, bien d'autres évaluations de cette taille des villes, par exemple en mesurant la capacité d'interaction des villes avec les autres. Pour une ville I, ce sera la somme des populations des autres villes J divisées par la distance des IJ qui la sépare de chacune. Ou bien on va encore spécifier quel est le rôle de la ville dans un système de villes et considérer si elle a véritablement un rôle dominant ou au contraire un rôle beaucoup plus modeste et dominé. Et puis chacun de nous se représente les villes, s'en donne une image et il y a aussi des évaluations collectives de ces représentations. Par exemple, à partir de visibilité dans les médias, sur Internet, ou encore de classement au patrimoine de l'UNESCO pour certaines villes. Dans le monde, nous avons un nombre très considérable de villes, puisque aujourd'hui, on en dénombre environ 60 000 qui ont plus de 10 000 habitants, avec des variations très importantes dans la dimension de ces villes. Entre 10 puissance 4 et 10 puissance 7, il y a peu d'objets dans la nature qui portent le même nom en dévalant tous ces ordres de grandeur. Et nous voyons que le nombre des villes dans ce tableau suit une disposition assez pyramidale. Lorsque on va des plus petites aux plus grandes villes, le nombre se réduit à chaque fois. Et cela était le cas aussi en 1950. Donc c'est une forme assez pérenne, persistante de la distribution des tailles de villes. Les plus grandes aujourd'hui dépassent très largement les 10 millions d'habitants. Nous avons ici, d'après les Nations Unies, qui ont projeté les populations actuelles jusqu'en 2025, ce qui n'est pas un saut bien grand, un ordre des villes qui nous donne encore Tokyo au premier rang, avec 36 millions d'habitants. Puis Mumbai, l'ancien Bombay en Inde, avec 26 millions. Et beaucoup de villes d'Asie dans ce tableau des populations maximales. Quelques villes d'Amérique latine comme Mexico, Sao Paulo. Quelques villes d'Afrique comme Kinshasa, Lagos ou Le Caire. Et nous ne trouvons plus aucune ville européenne parmi ces grandes, très grandes villes. En revanche, lorsque on dresse le tableau d'après des estimations du produit urbain, là, nous avons toujours Tokyo en premier lieu, mais vous le voyez rejoint assez vite par New York. Et puis beaucoup de villes américaines moins peuplées qui émergent dans la liste, comme Dallas ou Boston. Et parmi les villes des pays en développement, seuls Mexico et Sao Paulo, grâce à leur masse très importante, conservent un certain rang. Nous voyons émerger Londres et Paris en bonne place, mais presque plus de villes des pays en développement. Il faut savoir que malgré leur précision apparente, issue des recensements ou non, les mesures de taille des villes sont toujours des approximations. Elfie Svert, qui a travaillé des bases de données pendant plusieurs années pour l'Inde et la Chine, propose ici des chiffres qui correspondraient donc à une délimitation précise des agglomérations urbaines bâties en continu dans chacun des pays. Et vous le voyez, les chiffres auxquels elle parvient diffèrent parfois des évaluations faites par les recensements de quelques millions d'habitants. Dans le vocabulaire, les Nations Unies, la Banque mondiale se sont mis d'accord pour réserver le terme de mégapole à des agglomérations qui dépassent les 10 millions d'habitants. Il y en a aujourd'hui entre 30, 40, 50 dans le monde selon les estimations. En revanche, le terme de mégalopole, qui a été inventé en quelque sorte par Jean Gottman en 1964 dans un ouvrage appelé Mégalopolis, pour désigner la grande conurbation, laissant entre elles, entre des grandes villes, des espaces encore agricoles. Mais toutes ces grandes villes de la côte nord-est des États-Unis étaient très bien reliées entre elles, entre Boston et Washington. Et Jean Gottman en avait analysé les nombreux réseaux qui matérialisaient ces interdépendances, pour désigner cette forme de nébuleuse de très grandes villes très connectées entre elles. Les villes moyennes et petites sont légion, mais l'appellation est encore moins rigoureuse, puisque, suivant le cas, nous allons considérer en France qu'à partir de 2000 habitants agglomérés, nous avons des villes. Nous travaillons en Europe avec des agglomérations, des petites villes de plus de 10 000 habitants. Mais en Chine, on considère encore qu'à 100 000 habitants, une ville est petite. Donc, il y a une assez grande dépendance entre la dimension des pays et l'importance, la taille que les villes peuvent y prendre. On se donne ici une impression de cette variation en représentant sur ce graphique la population urbaine totale des pays allant de l'Afrique du Sud tout en bas jusqu'à la Chine tout en haut à droite, et en considérant que le nombre de villes de chacune de ces régions du monde, qui comprennent donc les BRICS, l'Europe et les États-Unis, eh bien, nous avons une relation assez étroite finalement entre le nombre d'agglomérations de plus de 10 000 habitants qu'on peut s'attendre à trouver dans un pays et l'importance de sa population urbaine. Vous voyez ce point vert des États-Unis qui fait exception parce que le peuplement dans ce pays est beaucoup plus concentré que dans n'importe quelle autre région du monde. Les mégalopoles sont reconnues au nombre de trois, généralement, avec la mégalopole donc nord-américaine, la mégalopole japonaise entre Tokyo et Osaka, et aussi cette dorsale européenne de Londres à Milan, qui regroupe beaucoup des plus grandes villes d'Europe, en y incluant Paris. En fait, Elfie Svert a montré que, en Chine, des mégalopoles sont déjà en cours de formation, sinon déjà formées, avec chacune quelque chose comme 70 millions d'habitants, entre Shanghai et Nankin, en incluant Suzhou, dans le delta du Yangtze-Kiang, entre Pékin et Tianjin également, et aussi au bord du delta de la rivière des Perles, entre Guangzhou, qui est en fait Canton, Shenzhen et Dongguan, tout près de Hong Kong. Nous avons là également une grosse nébuleuse avec beaucoup de villes qui ont chacune plus de 10 millions d'habitants. Ces très grandes villes, on s'y est intéressé très tôt. Jefferson, en 1939, un géographe américain, a proposé de parler de villes primatiales parce qu'il avait observé que dans la plupart des territoires du monde, nous avions une grande ville qui dépassait de loin celle de son territoire. Et donc, le rapport qu'on pouvait calculer entre P1, la population de la première ville, et P2, la population de la seconde, excédait souvent le chiffre de 2. C'est le cas en moyenne, même dans les pays développés, nous avons un rapport de 3,16, 3,6, tel que calculé par François Morricone-Ebrard. Et dans les pays en développement, ce rapport est encore plus grand, il dépasse 6 dans l'ensemble, en moyenne pour l'ensemble de ces pays. Alors, des exemples de primauté en France, on en connaît, puisque la population de Paris vaut 7 fois celle de la deuxième ville, et cela depuis au moins 2 siècles, depuis que nous avons des statistiques de population, mais sans doute déjà auparavant. C'est le cas aussi dans nombre de petits territoires où la capitale absorbe souvent plus de la moitié de la population, tellement l'étendue est faible, et on arrive à des proportions de 100% dans le cas des villes-États comme Singapour. Dans certains pays très vastes, ce sont plusieurs villes qui occupent nettement les premiers rangs, distincts de la suite des autres villes. C'est le cas en Australie, avec les 5 premières grandes villes qui se détachent nettement des autres. Et puis en Inde, nous avons Delhi, Mumbai, Calcutta, qui, avec 16 millions d'habitants chacune, tranchent nettement sur les populations des autres grandes villes comme Chennai ou Hyderabad. En fait, lorsque nous regardons la répartition de la population urbaine par 3 niveaux de taille, moins de 500 000 habitants, 500 000 à 5 millions et plus de 5 millions, nous allons contre l'idée reçue selon laquelle il y aurait des monstruopoles, des villes trop grandes dans les pays en développement. Vous le voyez, la répartition des proportions de population urbaine est pratiquement identique avec celle des pays développés. Lorsque on rapporte les populations de ces villes, de ces classes de taille de ville à la population totale par continent, on observe que l'Europe, avec près de la moitié de sa population vivant dans des agglomérations de moins de 500 000 habitants, est en fait un continent de petites villes. Lorsque on exprime la proportion en pourcentage de la population urbaine, puisque nous savons que les pays en développement sont souvent moins urbanisés que les pays développés, ce qui nous frappe, c'est toujours l'importance des petites villes pour localiser les populations urbaines en Europe, mais c'est aussi en Amérique latine surtout, mais aussi en Amérique du Nord et un peu en Asie, la forte proportion de populations urbaines qui habitent dans les très grandes villes. Et il est probable donc que ceci aille en augmentant puisque ces pays sont encore incomplètement urbanisés. Lorsque nous observons dans ce tableau la répartition du nombre des villes par taille, avec une progression géométrique entre 10 000 à 100 000 habitants et puis plus de 10 millions. Vous voyez que quel que soit le pays ou la région du monde, nous avons une diminution assez rapide du nombre des villes. En gros, le nombre est divisé par 10 chaque fois qu'on va vers la droite, vers une classe de taille supérieure. Et c'est là une forme de distribution des tailles de ville que nous allons revoir et essayer d'interpréter et de formaliser. Nous avons tenté, avec Anne Bretagnol, en utilisant le modèle de simulation SimPop, de reproduire les trajectoires de croissance des villes sur plusieurs siècles depuis environ l'année 1200 et 1500, et vous voyez que à différentes dates, les résultats que nous avons obtenus par simulation ne parviennent pas à atteindre le niveau que les plus grandes villes de ce système européen des villes avaient déjà acquises il y a plusieurs siècles et qui sont toujours bien au-delà de ce que la simulation parvient à restituer. Cela nous a fait dire que dans ce système de villes du continent européen, nous avions les plus grandes villes qui diffèrent, vous le voyez à chaque date, qui en fait avaient des systèmes de relations dépassant le cadre du continent et qui en tiraient un grand profit pour leur croissance. Donc, nous pouvons en conclusion dire que depuis le Moyen Âge, nous avions en Europe des villes mondiales.